Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Société, tendance et famille. Avec Maud Goyer.
OK, débat TikTok. Oui, TikTok, c'est une plateforme de médias sociaux. Et je vais résumer ça comme ça. TikTok, c'est une plateforme qui permet à ses utilisateurs de créer de courtes vidéos avec de la musique, des filtres, d'autres fonctionnalités, etc. Très populaire chez les jeunes, mais pas juste chez les jeunes. Oui, ça s'ajoute au Facebook, au Instagram, Twitter, Snapchat, etc., etc. Mais c'est vraiment extrêmement populaire, tellement qu'on retrouve des vidéos TikTok sur les autres plateformes. Et Maud Goyer ainsi que MC Gilles n'ont pas la même vision de, disons, du bienfait pour l'humanité de la popularité de TikTok. Donc, Maud va défendre TikTok et MC va pourfendre TikTok. J'ai bien résumé?
T'as bien résumé, ce sera les femmes d'abord.
Parfait. Les femmes d'abord.
Maud, oui. Défend TikTok.
Ben, premièrement, TikTok, c'est parce qu'on entend toujours parler les mauvaises choses de TikTok, mais il y a plein d'affaires intéressantes qui se passent. Les adolescents, moi, j'ai demandé à ma communauté, là, et ce que j'entends beaucoup, c'est que ça nous a aidés à vivre notre adolescence, à être plus mature, à comprendre plein d'affaires. Parce que, non. Parce que ils font plein d'affaires. Il y a des tutoriels de dessin, de maquillage, d'humour, d'animaux. Les gens qui aiment les animaux adorent ça. Dans ces champs, oui, mais il y a des recettes aussi. Okay. Et il y a
comme
toute une
dans
partie éducation, sexualité, attention. Okay. Ça, c'est super intéressant. Mm-hmm. On sait que les cours de sexualité, d'éducation sexuelle ont été retirés des classes. Il n'y en a plus. Et il y a plein de choses intéressantes qui se passent. Par exemple, Anne-Marie Ménard, Maud Pinchot-Major de la fondatrice de Sexplicit, Émilie Ouellette qui est devenue une grande confidente des ados. Je peux vous en nommer, là, je peux vous en défiler plein. Mm-hmm. Et les jeunes suivent ça et oui, il y a vraiment l'air de mauvaise foi.
C'est mon métier.
Mais vraiment, ma fille adore ça, elle est là-dessus.
Ben oui, mais c'est pas parce que ta fille aime ça, pauvre toi.
Puis moi, je la... Non, mais c'est pas juste ma fille,
non,
j'ai sondé.
C'est toutes les filles, je sais bien. C'est pour ça que c'est épouvantable.
Bon. C'est pas juste les filles.
OK, ton tour, MC.
Tout ce que tu viens de me dire, c'est sympathique, mais ça existait déjà dans les livres et dans l'éducation que les parents donnaient à leurs enfants. Deuxièmement, le glissement des réseaux sociaux. On a commencé avec YouTube, avec des longues vidéos. Oui, on a rapetissé ça. Là. Il y avait Snapchat. Oh là là, on va partager ça. Ça va être cool. Oups, Instagram, des petites vidéos. Puis là, est arrivé le logiciel chinois, je tiens à le souligner, qui vole vos données. Je le ressouligne.
En fait, comme toutes les autres plateformes.
Oui, mais c'est réglementé par pays un instant. Excuse-moi.
C'est quand même chinois. Et puis, l'idée, c'est que les vidéos durent... C'est très, très, très court là, pour les gens qui sont pas là-dessus. Donc, l'algorithme est infiniment puissant. Et quelque chose que je te donne, c'est est-ce que c'est addictif? Bien sûr, je l'ai installé.
Oui, mais tous les autres réseaux sociaux sont addictifs, tout, MC.
Tout
mais
est
bien
addictif.
Sûr, mais bien sûr.
Donc, sauf que j'ai essayé tous les autres réseaux sociaux, mais celle-là, tu sais, je sais pas, moi, Twitter, c'est comme un petit joint, mettons. Facebook, c'est relax, c'est du H. Mais ça, c'est de l'héroïne.
Ah, ben là,
c'est une piqûre dans le bras. Parce que c'est un algorithme très, très, très puissant. Quand vous décidez, moi, j'aime les chiens saucisses. Je t'allais dire que j'aimais les chiens saucisses et on dirait qu'il savait déjà d'avance, hein, parce qu'il va chez lui de ailleurs. Là, il s'énerve. Tu vois, le chien saucisse qui nage à l'envers, le chien saucisse qui vole dans les airs, le chien saucisse qui est bleu, qui est vert, qui est jaune. Regarde, et là, je vais faire juste une démonstration. Donc, c'est de l'héroïne. Est-ce qu'on donne de l'héroïne à nos enfants? Es-tu malade? Est-ce que c'est bon pour eux? Non, c'est pas bon pour eux. Et je fais une démonstration. Je termine avec ça, Patrick, ça va prendre 30 secondes. J'ai mon TikTok ouvert devant moi. C'est une vidéo ici. Il y a une dame avec un verre de vin sur le bord de l'autoroute où c'est écrit une pancarte. Où es-tu, homme de ma vie? Lol. Je saute à l'autre. Ah, il y a une madame fâchée ici. Je l'envoie à l'autre. Quelqu'un qui a un gros cocombe à l'épicerie. Je saute. Lisa Leblanc s'est acheté des nouvelles boucles d'oreilles. Je saute à l'autre. Une fille s'est mise... Oh,
OK. Je comprends ce que tu veux dire.
C'est du vide consommé.
Oui, mais ce que tu veux dire, c'est qu'on y devient accro. Droit de réflique. Go de mouiller.
OK, mais là, tu... Merci, Latte Pagacé. Mais là, MC, ce que tu fais, dans le fond, c'est que t'es juste en train de scroller. Mais ce que les utilisateurs de TikTok font, c'est qu'ils vont sur leur For You page. Puis si tu suis des choses, puis si t'aimes des choses, l'algorithme, oui, il est puissant, mais justement, il va t'amener vers des choses que tu veux voir, qui sont intéressantes.
Non, pas que tu veux voir, qui est enfermé dans ton cercle. Tu restes enfermé dans ton cercle.
Laisse parler la dame.
Les réseaux sociaux marchent tous avec des algorithmes comme ça. Oui, vraiment beaucoup. Donc, c'est pas différent. Et TikTok, c'est comme l'Instagram, mais en vidéo. Mais c'est pas très différent. Et l'autre chose, c'est que ça me fait très rire parce que ta génération, ma génération, là, avant, c'était la télé, ça allait devenir terrible. Après ça, c'est l'Internet, ça allait devenir terrible. Facebook aussi. Puis là, ben, c'est TikTok. Mais TikTok fait partie du paysage. Les adolescents l'adorent et je t'annonce que ça va rester. Parce que eux, Instagram, ils ne sont pas là-dessus, puis Facebook, encore moins.
Sais-tu à quoi ça ressemble, TikTok?
Mais oui, bien sûr.
Ben oui, je sais pas ça, j'ai pas fini ma question.
Une question rhétorique.
Une question rhétorique.
Ouais.
Je fais de la...
Ah oui, enchaîne.
On ralentit le rythme. C'est comme hier, il faut que tu changes de ton. L'idée, tu sais, Tinder, là, les gens qui sont là-dessus, bon, ça va vite, hein, ça. Tu vois un monsieur, lettre. Monsieur, lettre. Le monsieur, beau. Monsieur, lettre. Et ça, c'est le réseau social, c'est le Tinder du réseau social. Donc, ça va très, très, très vite. Ah, là, si la personne ne m'a pas fait rire dans les deux secondes, je switch. Et ma question, c'est ça va aller jusqu'à quelle rapidité, quelle vitesse? Je suis pas contre tous les réseaux sociaux.
T'as-tu peur de pas suivre, c'est ça l'affaire?
Non, j'ai peur que l'attention de nos jeunes, déjà, ils sont beaucoup trop sur les écrans. Mais là, on disait que leur attention était... Écoute, quand j'ai commencé à enseigner, là, ils disaient que c'était 7 minutes l'attention de quelqu'un. Là, on serait rendu en bas de 1 minute. Et ce qu'on m'a dit, c'est que sur les réseaux sociaux, on descend à 7 secondes. C'est-à-dire que si tu n'as pas intéressé le jeune dans les 7 premières secondes, donc, je trouve ça sympathique, ton cours de sexualité, là, mais tu as 7 secondes pour l'accrocher, sinon, il va changer de vidéo.
Mais aïe, aïe, aïe. Avant de débattre des réseaux sociaux.
Attends. Ça glisse. Je veux t'entendre sur un truc.
Okay? Ça glisse.
Toi et moi, on a grandi. Enfant, il n'y en avait pas d'Internet.
Non.
Ado, je pense pas. Et je te dis pas que c'était une meilleure époque, OK? Mais c'était assez différent. Moi, j'aime pas ce que les plateformes, qu'importe les plateformes, font à notre cerveau. OK? Il y a, quand on trouve quelque chose qui nous intéresse, il y a un jet de dopamine qui apparaît dans notre tête. On devient accro à ça. C'est scientifiquement prouvé. Il faut toujours trouver un nouveau contenu, mais on vient aussi qu'on est de moins en moins impressionné par ce qu'on trouve. Moi, ça m'inquiète ce que ça fait au cerveau des jeunes, cette réalité-là. Les livres faisaient pas ça, puis je pense pas que changer les postes de la télé, ça faisait
Merci,
ça.
Merci, Patrick.
Okay, mais comme partout ailleurs, Pat, l'idée, là, c'est de suivre ce que ton enfant a fait. Il est très populaire, le réseau, à partir de 12, 13, 14 ans, même jusqu'à 16, 17 ans, c'est démontré. Mais l'important, là, moi, par exemple, le compte, je le partage avec ma fille. Donc, je vois ce qu'elle voit, parce que si je vois dans la petite loupe, puis que je regarde l'algorithme, ou je vois dans la For You page, je vois ce qu'elle va regarder. Fait que ça, c'est juste important de garder un œil. Mais ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour les films qu'elle va écouter, est-ce que c'est violent, est-ce que c'est 18 ans et plus, les séries télé, elle a son Netflix sur son iPad, qu'est-ce qu'elle va écouter, fait que c'est la même chose.
OK, je te pose une question. Dans l'absolu, dans l'idéal absolu, est-ce que des enfants et des ados devraient carrément avoir des téléphones intelligents?
Qu'est-ce que c'est? Mais ils l'ont déjà.
Je sais qu'ils l'ont déjà. Je te parle dans l'absolu, est-ce que c'est une bonne chose?
Oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Tout à fait. Moi, je suis très heureuse là aujourd'hui. Ma fille va marcher. C'est très intéressant de pouvoir savoir où sont nos enfants. Puis je géolocalise pas là, mais je peux les appeler.
T'es géolocalise pas?
Ben non, ça okay, je suis contre.
On parlera de ça une autre fois.
Non. Mais donc oui, okay. Je suis pour. Puis c'est du divertissement. Ma fille là, le TikTok se différencie des autres plateformes parce que oui, c'est vrai, c'est une plateforme de divertissement. Ma fille, elle étudie, elle a un gros horaire, elle fait plein d'affaires. Mais là, elle se détend 30 minutes avec son TikTok. Non, je suis pas contre ça. Est-ce qu'elle lit des livres? Bien sûr qu'elle lit des livres. Il y a un équilibre là-dedans. Mais comme les adultes aussi, d'ailleurs. Là.
Et on est en campagne électorale. Qui j'ai en ce moment sur mon TikTok? François Legault.
François Legault, c'est sur TikTok. Oui. Mon Dieu, il va rafler le vote des jeunes.
Et on parlait hier dans le débat, peu de contenu, on n'est pas capable. Mais là, attache ta tuque, c'est TikTok, faut que ça aille vite. Alors, attention, attache ta tuque, comment ça va m'influencer, moi, en tant qu'électeur. Et que
mais t'es pas jeune.
On voit une photo de François Legault lorsqu'il était au secondaire. Il a les cheveux longs, le look Beatle, et on le compare dans son autobus avec aujourd'hui, il nous fait un sourire. On n'a pas le temps, là. On a 7 secondes là, pour encourager le monde. Ça donne quoi, ça? Pourquoi je vois ça? Est-ce qu'il y a du compte? Est-ce que je peux cliquer? Qui va dire, mon Dieu, je veux apprendre. Qu'est-ce que la CAQ veut me dire? Je pèse sur un lien. Ben non, ça sert à rien.
OK, le mot de la fin, Mme Goyer.
Ben, si on critique le téléphone, puis si on critique TikTok, puis si on critique Instagram, puis tout le reste, c'est comme si on critiquait ce qui fait beaucoup de bien à bien des ados. Fait que moi, je suis pour TikTok, puis faites attention à ce que vous dites, parce que vos ados, ils vous écoutent et ils vous regardent.
C'est de l'héroïne. L'héroïne, c'est mal. Bon.
Le mot de la fin revient à la messagerie. Quelqu'un m'envoie. Quelqu'un m'envoie un message très intéressant. TikTok est la seule raison qu'un travailleur de la construction de 18 ans réussi à passer 30 minutes dans une toilette mobile de site de construction.
Ouais, c'est glorieux.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Va bientôt célébrer sa première année comme maire de Québec. On peut dire qu'il a rapidement su s'imposer, pas juste à Québec, un peu beaucoup en dehors de Québec aussi. Il se démarque par son franc-parler, son ton posé. Et oui, ses souliers colorés. Bruno Marchand, maire de Québec, est en studio. Salut, M. Marchand.
Salut tout le monde.
Est-ce que vous avez regardé le débat hier à la télé?
Oui.
Puis est-ce que vous avez trouvé que c'était bon?
Après 1h20, je commençais à faiblir d'intérêt.
Vous êtes bon?
Oui.
1h20?
1h20.
C'est un marathonien, il faut le dire.
Oui, c'est ça, exactement. Je suis pas sûr que la formule convient à 5 chefs.
Non.
Je suis pas sûr que la formule convient à 5 chefs.
Qu'est-ce qui conviendrait à 5 chefs?
Je pense qu'il faut laisser un peu plus de temps. Et moi, je m'oppose un peu à cette idée que pour être un chef, il faut participer à un concours de quéquette. Et avoir être celui qui parle le plus fort.
Un concours de quéquette.
Ouais, au sens okay. où.
Je suis sûr que vous lui dites claquette.
Non.
Alors, c'est Catherine, lui, Québec, nous, à Montréal, c'est deux mentalités.
Mais je pense que cette idée où on laisse les gens, puis là, c'est celui qui parle le plus fort et l'autre finit par se taire, qui fait qu'on a un mâle dominant, puis qu'on est dans une espèce de mentalité, je trouve un peu des années passées, je trouve pas que ça convient à un débat politique. Je pense que ça prend une modération qui est capable de dire, oui, il peut avoir des échanges, oui, des échanges animés, mais à un moment donné, il y a un respect aussi d'un décorum qui fait que chacun a le temps de parler.
Ce qui a été présenté hier, est-ce qu'on peut appeler ça un débat?
Je ne sais pas. C'est une bonne question.
Parce que tout le monde lançait ses lignes. Tout le monde essayait d'avoir la formule assassine, mais je n'ai pas vu d'échange d'idées.
Mais est-ce que ça se prête à ça? Est-ce que à ce moment-ci de campagne, moi, j'ai fait 15 débats durant la campagne électorale.
15?
Évidemment, pas tous de ce niveau-là. En fait, il n'y en avait aucun de ce niveau-là national, mais on en a eu quand même quelques-uns qui étaient de niveau régional très diffusé et très attendu, couru. D'abord, je salue les 5 chefs. Peu importe ce qu'on pense d'eux, là, c'est un exercice inhumain. Inhumain parce que tout le long, dans les jours et les semaines précédentes, on te parle de ça. On te donne des conseils. On te dit ce que tu devrais faire. Et évidemment, un te dit fais A, l'autre te dit fais Z. Oui. Et t'essaies de réconcilier tout ça. Fait qu'on te dit sois gentil, sois pas gentil, sois affirmé. Laisse ton leadership parler. Vas-y avec le charisme. Non, vas-y avec du contenu. Ça devient un foutoir terrible et c'est dur d'être capable de sortir de là en étant satisfait de soi-même.
Comme électeur, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont la campagne se déroule? Est-ce que vous trouvez que tous les sujets sont bien abordés?
Oui, mais comme toute campagne, la réponse est non. Il n'y a pas une campagne où on peut dire qu'on s'accorde à trouver tous les sujets et les aborder de façon périodique. Une campagne, c'est fait d'événements inattendus qui viennent souvent prendre la part du plancher puis imposer au chef un agenda parce qu'il y a des événements, parce que la vie continue, parce qu'il y en a un qui fait une gaffe et tout le monde doit réagir puis ça dure 3 jours. C'est ça aussi une campagne.
Quel parti a les propositions les plus attrayantes pour l'avenir des villes?
Ben, je pense que chaque parti fait un effort. On les avait ce midi, ils étaient tous avec l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, à l'invitation de cette grande organisation, et ils venaient présenter un peu leurs propositions pour l'Union des municipalités, et donc les municipalités. Et je pense qu'il y a de la sensibilité pour les villes, mais pas de façon égale. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont dans un mode où il faut soutenir les villes, mais on voit les villes comme une créature du gouvernement du Québec et donc un peu le petit frère. Et d'autres voient les villes comme des partenaires à part égale avec les compétences qu'elles ont pour les laisser travailler.
Là, les villes ont proposé cette semaine un pacte fiscal au gouvernement.
Ouais. Okay?
C'est-à-dire 2 milliards pour mettre à jour les infrastructures pour affronter toutes les conséquences des changements climatiques. Tout de suite, M. Legault a fermé la porte.
Selon moi, c'est une erreur.
Oui. Puis on va revenir au fond de l'affaire, mais j'ai l'impression que les villes, avec le gouvernement du Québec, vous avez à peu près le même rapport de force que le gouvernement du Québec avec Ottawa quand on demande des sous, quand on demande des transferts, c'est-à-dire zéro.
C'est peut-être le cas. J'espère que c'est pas le cas. Prenons l'exemple de l'adaptation au changement climatique. Ce qu'on a demandé cette semaine, c'est pas une feinte, c'est pas une arnaque pour dire on va essayer de trouver une façon d'avoir de l'argent, puis on est toujours des demandeurs d'argent, puis on a de l'argent, on est content. Puis on a eu la preuve mardi soir. Les réseaux d'aqueducs. Prenons juste les réseaux d'égouts, sont pas capables de soutenir des pluies diluviennes qu'on a de plus en plus fréquemment et de plus en plus intensément. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça fait des débordements. Ça fait des débordements chez les gens. Ça crée des problèmes chez les citoyens. Mais en plus de ça, lorsqu'on a des villes à proximité du fleuve, ça fait des déversements dans le fleuve ou des déversements dans des rivières, parce que ce qu'on appelle les subverses, parce qu'on n'est pas capable de contenir l'ensemble de la pluie qui tombe. Donc, ça s'en va à travers les égouts et on a de la misère à traiter les eaux usées. donc celles qui tombent, mais aussi les eaux usées des citoyens, et on pollue nous-mêmes nos propres cours d'eau parce qu'on n'a pas les infrastructures suffisantes. S'adapter au changement climatique, c'est prévoir le coût, puis on est déjà presque plus en prévision, mais déjà en intervention, on est dedans, pour éviter qu'à chaque fois qu'arrive une pluie diluvienne, on soit dans le mode, on se met à genoux, on prie, puis on espère que ça n'aura pas d'impact sur les citoyens.
Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas de rapport de force des villes avec le gouvernement du Québec, je veux dire, quand Québec dit non, vous n'avez pas à faire grand-chose. À Longueuil, ils ont besoin d'une autre usine de transformation d'eau pour faire de l'eau potable, ce qui est un peu la base. Ils n'ont pas, je pense que ça va coûter des centaines de millions, ouais, ils n'ont pas l'assiette fiscale pour ça.
Parle d'un milliard même.
Oui, et ce que répond le premier ministre, c'est, ben écoutez, avec les nouveaux revenus de construction, de densification, etc., vous le paierez. Vous n'avez pas les revenus nécessaires pour assurer vos missions présentes et futures.
Et missions qui augmentent.
Et Québec ne vous écoute pas.
Émission duquel les villes ont plus de charges.
C'est quoi votre rapport de force? Une fois qu'ils vous ont dit non, vous ne pouvez pas rien faire.
Oui, mais, la situation est plus complexe. Ils ne font pas juste dire non. Il y a des choses auxquelles ils disent oui. Il y a des choses que le gouvernement du Québec et les gouvernements précédents font. Maintenant, le rapport de force, il est où? Il est chez les citoyens. C'est les citoyens qui élisent un gouvernement au niveau du gouvernement du Québec. Et après ça, c'est eux qui sont capables aussi de dire au gouvernement du Québec, c'est pas vrai qu'on va tolérer le fait qu'on n'aménage pas nos berges de façon à s'adapter, qu'on n'adopte pas nos réseaux d'égouts, qu'on n'a pas une autre qualité, etc., etc.
Mais, M. Marchand, là, vous avez été élu en novembre de l'année passée. Oui. Là, vous avez été élu en même temps que des maires avant-gardistes à Laval, à Longueuil, à Sherbrooke, même Mme Plante qui a été réélue. Là, tu sais, c'est une certaine vision de l'urbanisme, OK? Et on a dit de vous, les nouveaux maires, que vous étiez la nouvelle opposition. Mais là, on regarde Monsieur Legault. Il vogue vers une victoire. C'est quand même paradoxal que dans les villes, on choisit des gens hyper avant-gardistes. Puis sur l'environnement, à Québec, ben c'est pas quelqu'un qui est avant-gardiste quand même.
Puis ça fait des confrontations.
Oui.
Mais quand on dit les villes vont être l'opposition au gouvernement du Québec, est-ce que vous avez déjà essayé d'être l'opposition à votre banquier? Est-ce que vous avez eu du pouvoir, si vous avez réussi à donner votre façon de penser au banquier en lui disant...
Le banquier gagne d'habitude.
Ouais, ben, d'habitude, le banquier gagne. Les villes là, sont tributaires du gouvernement du Québec sur un paquet d'aspects. Un centre sportif, des réseaux d'égouts, l'adaptation des infrastructures, un événement...
Le patrimoine.
Le gouvernement du Québec, par exemple, dans le patrimoine de Québec, gère comment on adapte à travers ce qu'on veut créer dans le Vieux-Québec, comment on adapte les nouvelles créations, les nouveaux bâtiments, et nous donne l'autorisation. Il a le droit de nous dire non à tout ce qu'on veut proposer. Ils ont du pouvoir sur les villes partout. C'est pas le gouvernement actuel, ça a toujours été comme ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne fonctionne plus comme ça d'être la petite sœur ou le petit frère du grand frère. Ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut travailler différemment. Les citoyens, là, la démocratie auxquelles ils ont le plus accès, c'est les municipalités. C'est là qu'ils vont au conseil de ville pour se plaindre, pour nommer des choses, pour avoir de l'espoir. Et c'est les élus municipaux qui font face à ces gens-là. C'est les élus municipaux qui répondent à leurs aspirations. Et Jean-Marc Léger nous disait aujourd'hui, ils ont des exigences élevées envers les élus municipaux, notamment sur la question des changements climatiques. Et vous, comme élus municipaux, vous allez avoir de plus en plus de pression. Il faut que le gouvernement nous aide, parce que sinon, c'est les citoyens qui en font les frais.
OK. À Québec, M. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, est vraiment, vraiment populaire. Expliquez aux gens qui nous écoutent, qui ne sont pas dans la région de Québec, qu'est-ce qui fait que c'est la région où M. Duhaime est le plus populaire?
D'abord, moi je dirais, pour les gens qui ne sont pas à Québec, c'est pas un bloc monolithique, Québec. Là. Ça ne l'a jamais été. Prenons un exemple. On a souvent dit, de Québec, c'est les radios d'un tel type, plus trash, qui sont populaires. Ça fait des années que Radio-Canada ont les émissions les plus écoutées. Donc, le Québec n'est pas un bloc monolithique. Donc, si vous divisez la rive sud versus la rive nord, il y a des intérêts divergents différents.
Puis Québec solidaire était très populaire chez les jeunes dans la région.
Et avait deux comtés.
Oui.
Donc, en même temps qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt pour le Parti conservateur, il y a des gens qui ont de l'intérêt pour Québec solidaire, qui sont, je pense, les deux.
Mais Québec solidaire a une base à Montréal, a des députés ailleurs. La grosse base de M. Duhaime, c'est Québec, le sud de Québec.
Et la Beauce qui est un peu plus loin.
Qu'est-ce qui explique ça?
Ben, je pense qu'il y a une question d'histoire. D'abord, il y a un mouvement conservateur à Québec qui est là de tout temps et qui, je pense, est amplifié par, notamment à Québec, une radio qui en fait la promotion. Donc, il y a un agent promoteur qui en parle constamment et qui en fait la promotion de ces idées-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose.
Parler de choix, là.
Je parle de choix. Donc, nécessairement, ça finit par percoler. Il y a une radio qui est l'agent promoteur de ce type d'idées-là.
Ça a un impact.
Ben oui, ça a un impact. Les gens qui l'écoutent, il y a des gens qui l'écoutent qui vont être, évidemment... On peut pas écouter en permanence une radio et pas se sentir perméable à certaines idées. Ça veut pas dire qu'on accepte tout. Les gens sont pas des innocents. Mais ça fait partie de aussi pourquoi ces idées-là ont de la prise. Il y a des gens qui ont de l'intérêt. Il y a des gens qui en font la promotion. On a ça à Québec. En même temps, tu sais, les gens me questionnent sur le Parti conservateur. Tant mieux s'ils sont au Parlement. Tant mieux s'il y a un pourcentage de la population qui juge que ce parti-là devrait exister, que je sois d'accord ou non, et que ces idées-là se retrouvent au Parlement. Pour moi, c'est une bonne chose. Il faut que si ça existe dans la population, ça soit au Parlement et non juste dans la rue.
Un des enjeux de la campagne à Québec, c'est le troisième lien. Vous nous avez déjà dit là, ce que vous pensiez de ça. Vous attendez de voir les études, puis vous êtes assez sceptique, je vais dire ça comme ça. Mais François Legault a dit, il y a quelques jours, là, que fallait que les Montréalais cessent de regarder les gens de Québec de haut.
Ouais, je me sens de même depuis que je suis arrivé ici.
Ben, vous êtes le premier citoyen de Québec. Trouvez-vous que les gens de Montréal vous regardent de haut?
C'est chiant de m'avoir mis dans le coin, d'ailleurs. Non. Non, non, on a autant avec la ville, on a des collaborations extraordinaires avec la mairesse Valérie Plante, avec un paquet de promoteurs d'entreprises, de gens du milieu culturel. Moi, je ne sens pas ça.
Comment vous avez réagi quand vous l'avez entendu dire ça?
Ben, j'ai rigolé.
Pourquoi?
Ben parce que c'est pas le premier, puis ça sera pas le dernier. C'est ce qu'on appelle en anglais de la wedge politics, dans le sens où c'est...
Il essaie de diviser. Là.
Ben c'est... Pour envoyer en politique un message qui percole, il faut envoyer un message clair. Un politicien qui est dans nuance en campagne, aux yeux des gens, le port du temps, c'est un politicien plate. Parce que là, il dit, oui, il y a ça, mais s'il arrivait à ça, il y a peut-être ça, puis il y a aussi ça, puis on l'écoute déjà plus. Donc, puis là, je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise. Je fais juste dire que les messages clairs, ce sont des messages où on place clairement la trame. Il y a un bon, puis il y a un méchant.
Mais il y a quand même... Est-ce qu'il met le doigt sur un sentiment qui existe à Québec?
Ah, de moins en moins.
Mais ça a existé.
Je pense que ça a existé. Je pense que ça a existé de se sentir, encore là, le petit du grand frère. Je pense que ça n'existe plus. Je pense que les gens de Québec sont fiers de leur ville. Je pense que les gens de Québec n'ont pas à pâlir de Montréal. Je pense pas qu'ils aiment pas Montréal pour autant. Montréal a de grandes qualités. C'est pas le même type de ville. C'est pas la même grandeur de ville. Mais je pense que les gens de Québec sont, oui, très fiers de leur ville, veulent la développer. Mais en même temps, je sens pas d'un sentiment d'infériorité du tout.
Toujours un plaisir de vous parler.
Merci
d'être venu nous voir en studio.
Salut.
C'était Bruno Marchand, le maire de Québec. Joliette, Saint-Tite et Québec, c'est les endroits qui ont été visités par le VR de notre ami journaliste tout-terrain Hugo Meunier, journaliste à Urbania. On le retrouve tout de suite à Saguenay. Salut Hugo!
Salut à vous!
Écoute, t'es allé à Québec hier?
J'étais à Québec hier, j'étais allé voir le débat des chefs.
Qu'est-ce que t'as vu?
Grosse soirée. Ben j'ai voulu aller, parce qu'au départ, on a été attiré par l'invitation des conservateurs de la Pelleterie, donc le comté d'Éric Kerr, qui diffusait le débat dans un parking de bar en plein air. Donc, on a évidemment mis le cap vers là, et à cause des caprices de la météo, ils ont fait ça dans leur local électoral. Donc, on a été là, on a passé la soirée avec les quelques militaires et partis dans deux, trois salles avec des télés. Là, tu sais, ça a été une belle soirée, somme toute. On était bien reçus. Il y avait de l'alcool, de la bière, de la pizza. Mais le seul hic, c'est qu'il manquait le candidat. Donc,
le candidat n'était pas là.
Non, mais apparemment, il était coincé sur un pont. Et c'était plutôt ironique parce que c'est quand même, tu sais, c'est le candidat, il s'appelle Stéphane Lachance, il s'est fait connaître beaucoup comme un militant très anti-transport en commun et tout, tramway, donc on a trouvé ça plutôt drôle. Mais en même temps, à sa défense, on débarque un peu comme un cheveu sans soupe et ça se peut qu'il y ait une vie et que écouter le débat avec ses militants, ça, il y avait d'autres choses à faire hier soir. Mais on est tous allés chez les Solidaires dans Saint-Roch où c'était à peu près l'ambiance inverse, donc c'était survolté de gens qui applaudissaient à tout rompre dès que Gabriel Nadeau-Dubois disait quoi que ce soit. Donc, c'est une ambiance complètement différente.
Si tu avais à décrire à un extraterrestre la différence entre le militant conservateur de Québec puis le militant solidaire de Québec, ce serait quoi? Qu'est-ce qui frappe quand on passe du temps avec eux?
C'est une bonne question. Ben, ce qui frappe, c'est la poignée de main, peut-être. Je sais que les militants conservateurs m'ont squeezé ça ben comme il faut. Donc, solide... Ouais, ça que peut-être les scies mangent un petit peu plus les raies. Mais en même temps, sinon, ben c'est des convictions différentes. Et évidemment, quand on est avec les conservateurs, bon, ben ils trouvent que tout ce que Éric Duhem dit, c'est extraordinaire. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un peu Satan. Et quand on va avec les autres, ben c'est exactement l'inverse. Fait que je pense que rendu là, ça dépend à quel spectre on se place. Mais sinon, plus jeune, mettons pour les extraterrestres, là, un peu plus jeune les solidaires, un petit peu plus vieux les conservateurs, et un petit peu plus en colère les conservateurs. conservateur, là, un peu contre les grandes institutions et tout ça. Un peu plus fleur bleue, là. Je sors des clichés, mais c'est un peu ce qu'on a vu.
Mais en tant que membre des médias, comment tu as été accueilli chez les conservateurs? On sait qu'il y en a beaucoup qui nous traitent de merdias.
Oui, beaucoup, mais là, tu sais, il faut faire une distinction entre les militants conservateurs et les complotistes, je pense, mais les mauvaises langues diront que c'est un peu la même équipe, mais bon, on a été reçus avec un petit haussement de sourcils et un petit effet de surprise, je pense que ça demandait ce qu'on faisait là, et là, j'avais beau me dépatouiller en leur expliquant qu'on était là pour le ciné-parc et tout, c'était complexe, fait que finalement, on a juste décidé de rester et de suivre le débat avec eux, mais tu sais, ils se demandaient un peu, puis il y avait une petite méfiance, là, c'est sûr que les gens j'étais pas très populaire chez les conservateurs, alors que vu qu'on travaille chez Urbania, quand je suis arrivé avec les solidaires, il y a eu une aide d'honneur, il y a eu des applaudissements. Oui. Il y a eu des jets de fumée quand je suis rentré. Les gens scandaient mon nom. Donc, c'est sûr que j'étais en terrain connu. Hein.
Les gens voient pas ton sourire en coin. Là, ils savent pas que des fois, tu es au deuxième degré. Couvrir non. La campagne en VR, est-ce qu'on voit un autre type de campagne électorale?
C'est du sport, là. Honnêtement, on a peut-être un peu sous-estimé l'aspect logistique de l'entreprise. Et tout ça, au départ, était une bonne idée d'être un peu une réponse à tous les vrais médias traditionnels là, qui couvrent la campagne à bord des gros autobus, des partis et tout ça, puis quand ils font leur petite visite avec le cellulaire de leur environnement spacieux et tout. Et là, nous, on s'est dit, on va le faire, mais on n'a pas ces moyens-là, ni ces invitations-là, donc on va s'organiser nous-mêmes et on a loué un rutilant VR 2005. On est très à l'étroit. On est trois là-dedans.
Un VR 2005, ça doit pas être très, très économe en GES, mon Hugo.
Ben, vu qu'on est à Urbania, on le fait aménager, donc il fonctionne à voile.
Okay.
Donc ça c'est super bon. Ouais. Mais honnêtement, c'est petit. On est à l'étroit. Je dors à deux. T'sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça dans un lit double. Et tu sais, je suis quand même un monsieur assez corpulent.
Ouais.
Et là, je suis avec le pauvre Jean-Pierre qui est mon voisin de lit. Tu sais, nos bras se touchent.
Ouais.
Et Carmen qui est avec nous, notre autre équipière qui dort dans son lit parce qu'on est très galant et gentil. Puis est un peu chaleuse aussi, donc on lui a laissé sa place à elle tout seule. Mais juste ça, là, on est à Saguenay, on vient d'arriver, et on a été obligé de faire la vidange, donc vider les bécosses.
Oui.
Toutes des choses qu'on apprend à la dure, parce qu'on n'avait aucune idée de comment ça fonctionne, tout ça. Et c'est pas si évident que ça. Là, la nuit passée, on dormait dans une rue perdue à Québec parce qu'on avait moyen le droit. Et en pleine nuit, le pauvre Jean-Pierre s'est fait réveiller, non pas par mes ronflements habituels, mais plutôt par une espèce d'alarme dans le VR. On sait pas quoi. Donc, on est comme trois cyclistes citadins qui se ramassent à vivre la grande aventure sur les routes. Mais bon, c'est cliché, là, mais on c'est vraiment intéressant de couvrir un peu la proverbiale région, les gens, le vrai de vrai monde, comme on dit. Je sais que c'est galvaudé, mais tu sais, à Saint-Tite, tout ça, c'est intéressant d'entendre d'autres choses que notre petit microcosme montréalais. Puis je pense que le VR nous permet ça parce qu'on attire l'attention, on s'est fait lettrer, on a mis des beaux collants Urbania, les gens sont curieux, les gens n'ont pas vraiment entendu parler. Puis c'est ça. Fait que l'interaction avec le monde est vraiment intéressante.
Merci Hugo, on va s'en parler. Bon week-end dans la belle région de Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Merci, vous aussi, bye.
Salut, c'était Hugo Meunier, journaliste à Urbania, en tournée en VR un peu partout au Québec pour la campagne électorale.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
L'histoire se répète en Ukraine, c'est-à-dire que là où l'armée ukrainienne reprend du terrain, libère des villes, libère des villages, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre l'ampleur des exactions, des horreurs commises par l'armée russe pendant les mois d'occupation. On a torturé des civils et c'est ce qu'on est en train de découvrir dans les zones qui ont été récemment libérées par l'armée ukrainienne. Je cite le président Zelensky de l'Ukraine aujourd'hui. « La Russie ne laisse que mort et souffrance, des meurtriers, des tortionnaires, privé de tout ce qui est humain. Il y a 400 corps qui auraient été trouvés dans une fosse commune près d'Izium. On va aller à Kharkiv rejoindre le correspondant en Ukraine, Stéphane Sion. Salut Stéphane.
Bonsoir.
Stéphane, vous étiez tout récemment, là, aujourd'hui, je crois, à Izium. C'est une ville où on découvre l'ampleur de toutes les horreurs commises pendant l'occupation par les Russes. Qu'est-ce que vous avez constaté ces dernières heures?
Oui, tout à fait. Je viens de passer 3 jours en reportage à Izium et cette troisième journée, la visite d'aujourd'hui a été la plus éprouvante. Nous avons appris hier en fin de journée qu'un site d'inhumation massive avait été trouvé en bordure de la ville, sur un site qui est à la fois un vieux cimetière dans une forêt de sapins qui était utilisé par l'armée russe pendant la guerre comme une position avancée pour les chars et les blindés. Et grâce à une vidéo d'un habitant sur les réseaux sociaux, il y a eu donc ce bruit que ce site avait été utilisé comme un site d'inhumation massive afin de donner une sépulture pour les victimes de la guerre qui dure depuis 6 mois dans cette zone. Izium est une ville qui a été envahie par l'armée russe à la fin du mois de mars. Elle a vécu sous occupation russe durant toute cette période. C'est une petite ville d'environ 40 000 habitants avant-guerre. Et il y a eu un grand nombre de victimes durant ces 6 mois, et notamment beaucoup de morts lors des bombardements de l'aviation ukrainienne au mois de mars et d'avril dernier. Et en fait, ce qu'on a découvert aujourd'hui, plus qu'une fosse commune, en fait c'est une sorte de grand cimetière un petit peu bizarre où durant 6 mois toutes les victimes de cette ville ont été déposées, les corps ont été rassemblés. Il y a certes une fosse commune où on a retrouvé 17 soldats ukrainiens qui visiblement ont été torturés et exécutés, et sinon il s'agit de personnes civiles qui ont été enterrées les unes à côté des autres, et le chiffre fait vraiment froid dans le dos, c'est 443 personnes qui ont été identifiées à cet endroit.
Mais c'est 440 personnes là, qui ont été enterrées. Est-ce que les corps portent des marques qui indiquent qu'il y aurait eu de la torture, Stéphane?
Alors c'est encore difficile à dire parce que les exhumations ont commencé seulement ce matin sous l'égide du parquet de la capitale régionale de Kharkiv. Aujourd'hui c'est à peu près une quarantaine de corps qui ont été retirés du sol, et ce travail délicat, douloureux va se poursuivre dans les jours à venir à hauteur de 50 corps par jour. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a au moins une personne qui a été découverte les mains liées dans le dos. Il y a également des signes de torture sur quelques autres personnes, mais à l'heure actuelle, il faut éviter de faire trop de spéculations sur les circonstances dans lesquelles ces personnes sont décédées. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens avoir vu en fait la croix avec le nom d'une vieille dame qui avait 91 ans et qui est morte au mois d'avril. On ne sait pas ce qui s'est passé pour cette vieille dame. Il faut savoir que à Izium, à ce moment-là, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de lumière, et il y a des personnes qui ont également pu mourir de faim, d'épuisement, de froid, de maladie ou de vieillesse. Donc il faudra encore attendre quelques jours et les constatations des médecins légistes pour en savoir plus sur les circonstances. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un grand nombre de ces 443 personnes ne seraient sans doute pas décédées si l'armée russe n'avait pas décidé d'envahir l'est de l'Ukraine.
On parle de salles de torture qui ont été découvertes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, découvertes à Izium?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Les découvertes sont en train de se multiplier dans la région de Kharkiv. Selon la police locale, il y aurait déjà 1000 personnes décédées qui auraient été retrouvées sur le territoire de cette région, de cette province. Et la police a également d'ores et déjà identifié 10 lieux de torture. Ce sont généralement des salles qui sont aménagées dans les caves des commissariats de police dans les petites villes. Et notamment, 6 de ces lieux de torture sont sur la ville d'Izium où je me trouvais ces 3 derniers jours. Ce sont des endroits où les services spéciaux de l'armée russe ont enfermé pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines des personnes qui étaient identifiées comme des patriotes ukrainiens, comme des soutiens de Kiev. On sait également par ailleurs que l'armée russe avait des listes de personnes, notamment des vétérans de l'armée ukrainienne ou des membres de famille de soldats actuels de l'armée ukrainienne qui sont des gens considérés comme patriotes ou soutenant le le régime de Kiev. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont disparu. Je me suis entretenu il y a pas plus d'une heure avec un politicien local que je crois être une bonne source, qui m'a indiqué que dans la ville voisine d'Izioum, une petite ville qui s'appelle Balakleia, il y aurait 2000 personnes qui manquent à l'appel. On ne sait pas du tout ce que ces personnes sont devenues. Peut-être certaines seront retrouvées mortes plus tard, mais en tout cas, voilà, il y a un véritable drame qui est en train de se jouer. Ce n'est peut-être pas comparable avec ce qui s'est passé à Boutcha, à côté de Kiev, au printemps, où là, en l'espace de 24 heures, ce sont des dizaines de personnes qui ont été abattues de manière systématique. Mais on voit les effets de l'occupation russe pendant des mois et des mois qui sont en effet, des disparitions et des morts.
Stéphane, quand vous arrivez dans ces villes, dans ces villages libérés, dans quel état vous trouvez les citoyens ukrainiens après des mois d'occupation russe?
C'est un état qui est très difficile à décrire. Izioum, donc 40 000 habitants avant-guerre, c'est une petite ville poussiéreuse de province, hein, assez pauvre, mais bon, avec des bâtiments, des immeubles, etc. Il y a des spécialistes qui estiment que la ville est détruite à 80%. Et après avoir passé 3 jours de reportage, ben, ce que je peux constater, c'est qu'il y a peut-être en effet 80% des bâtiments qui sont endommagés ou détruits, avec des structures d'immeubles totalement explosées, éventrés, brûlés, et les gens vivent parfois dans les ruines. Ils se sont réaménagés des logements de fortune, et il faut comprendre que ces gens n'ont pas eu d'eau et d'électricité pendant 6 mois. Ils ont vécu dans un système de débrouille sous l'occupation russe, et actuellement ils sont totalement démunis. Alors, bien entendu, il y a depuis une semaine une certaine forme de soulagement que l'Ukraine ait repris le contrôle de cette ville. Beaucoup de gens m'ont dit que, en effet, ils étaient soulagés. Ils attendaient ce moment avec impatience. Mais j'ai également vu beaucoup de tristesse et de vide dans les yeux de gens, en fait, qui ont du mal à savoir s'ils sont russes ou qui sont pour la Russie, pour l'Ukraine, mais qui ont bien entendu de grosses difficultés à envisager le lendemain, parce que l'hiver arrive, il n'y a pas de chauffage, et pour les habitants d'Izioum et de la région, cela va être vraiment très difficile.
Stéphane, merci, on aura l'occasion de se reparler très bientôt. Faites attention à vous.
À très bientôt.
Stéphane Sihan, correspondant en Ukraine dans les zones, là, fait du reportage ces jours-ci dans les zones récemment libérées par l'armée ukrainienne.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.